Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Discussion d'affaires. Et comme à chaque semaine, je suis avec mon ami, la personne avec qui j'aime beaucoup parler business, Jonathan Léveillé. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien, Antoine, et toi?
Ça va très bien, merci de le demander. Et aujourd'hui, le sujet de notre discussion est le suivant. Est-ce que les robots, au Québec spécifiquement, peuvent nous aider à combler les enjeux de pénurie de main-d'œuvre? Et également, est-ce qu'on est prêt au Québec à pouvoir, ultimement, utiliser la robotique comme un endroit, comme un différenciateur au niveau de notre province comparativement à d'autres pays dans le monde? Parce que, vous allez l'apprendre aujourd'hui, il y a des super belles entreprises au Québec qui sont en train, en ce moment, de développer des robots qui, ultimement, vont pouvoir nous aider dans la chaîne de production. Et Jonathan, je pense que tu es tombé sur des articles assez intéressants qui pourraient intéresser notre audience aujourd'hui. Pourrais-tu partager les différentes statistiques qui, à mon avis, vont marquer l'imaginaire?
Oui, effectivement. Puis même avant ça, je m'élèverais un petit peu plus haut sur la discussion à l'échelle internationale. Il y a Dyson, via TechCrunch, qui a révélé un petit peu ce qui se passait dans leur laboratoire à l'échelle mondiale. Dyson, qui est très connu pour tout ce qui est ventilateur et système d'aération et de ménage. Ils sont en train de se transformer en un des plus gros joueurs à l'échelle planétaire au niveau de la robotique. Et ils ont donné un petit aperçu de qu'est-ce qui se passe dans leur lab d'innovation. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Puis à partir de là, on a regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait dans le monde de la robotique. Mais pour vous mettre un petit peu en perspective, Dyson a embauché 250 ingénieurs multidisciplinaires, autant au niveau de l'intelligence artificielle que la vision par ordinateur, et autant au niveau des sensors et tout ce qui vient avec ça, là. Et il prévoit embaucher 700 personnes de plus dans les prochaines années pour vraiment se transformer comme un joueur vraiment dominant au niveau mondial. Leur but à eux, c'est vraiment de sauver du temps aux gens. Et ce qu'on avait comme discussion un petit peu plus tôt, c'est que oui, ça peut sauver le temps aux gens dans leur quotidien par rapport à faire le ménage, faire la vaisselle, faire la nourriture, la cuisine. Mais un coup qu'on règle ces problématiques-là d'intelligence artificielle puis que les robots soient capables de bouger dans l'espace qui les entoure, bien, tout ça, c'est généralement facilement applicable dans le quotidien, dans une entreprise. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme aujourd'hui, ça se pourrait fort bien que ça soit la clé qui va arriver dans les prochains mois, prochaines années. Et quand on se met à rechercher de ce qui se passe ici au Québec, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. On est quand même un chef de file à l'échelle mondiale par rapport à la robotique. Il y a vraiment des belles entreprises qui se démarquent. Et on est tombé sur des articles Journal des affaires il y a à peu près un mois et demi qui expliquaient justement que la majorité des entreprises, généralement, vont chercher leur machinerie, leur robot, normalement à l'extérieur du pays. C'est généralement en Italie, en Allemagne, en Chine que sont des chefs de file, mais ils commencent à avoir un revirement de situation présentement qui commence à avoir des achats qui se font local ici au Québec. Puis on commence tranquillement à être un chef de file. Donc, c'était vraiment quelque chose, je pense, d'intéressant à explorer aujourd'hui, à discuter, parce que c'est quelque chose que je pense qui va arriver très vite. Et dans l'auditoire, s'il y a des gens qui veulent se démarquer, combattre un peu la pénurie de main-d'œuvre, de devenir plus efficace, de devenir également plus productif. Je pense que la robotisation des chaînes de montage et dans nos entreprises, c'est quelque chose qui va vraiment faire une différence là, dans les prochains trimestres, les prochaines années. Et je pense qu'il y a des belles compagnies qu'on peut s'approvisionner ici au Québec. On parle entre autres de robotique, de mécadémique, de Kinova également qui viennent de lancer sa troisième génération de son bras mécanisé. C'est vraiment impressionnant d'aller voir sur YouTube qu'est-ce que c'est possible de faire. Puis ils montrent des exemples, des études de cas qui sont très, très, très variées, allant même jusque à ce que les robots contrôlent d'autres machines ou d'autres outils autour d'eux. Donc, c'est vraiment impressionnant, vraiment moyen là, d'automatiser un point qui est assez impressionnant, je dirais.
Puis ce qui est intéressant, c'est ça, tu disais dans l'article qu'habituellement au Québec, on importait les robots d'ailleurs, mais on dirait que de plus en plus, il y a un changement qui est en train de se dérouler autour de ça, même que dans le même article du Journal des affaires, ça le dit, le Québec, petite fourmilière de la robotique, robotique même d'ailleurs, littéralement, l'entreprise qui a l'air de prendre une place assez importante présentement dans ce marché-là. Puis c'est impressionnant parce qu'on dirait que de plus en plus, on est capable de voir autant l'intelligence artificielle que la robotique dans la vie de tous les jours. Je sais pas pour toi, mais moi, Jonathan, dans la catégorie dans laquelle je pars, on voit que les outils qu'on utilise au niveau des investissements publicitaires deviennent de plus en plus puissants, améliorés grâce à l'intelligence artificielle au jour le jour. Donc, on est davantage dans l'AI ici. À quel point, toi, ces entreprises-là, cette robotique-là, dans ton quotidien, peut-être dans le quotidien de tes clients, tu es en train de voir une évolution, même une transformation? Est-ce que c'est des choses que tu es capable de réaliser, de voir l'impact dans le quotidien présentement?
Effectivement, on le voit beaucoup dans le domaine manufacturier. Là, on a beaucoup, beaucoup de clients dans ce domaine-là. Et généralement, là, la grande majorité de ces clients-là importaient la machinerie de l'Italie, de l'Allemagne. Mais ces machines-là étaient peu intelligentes et avaient besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'humain pour avancer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en ajoutant des robots autour de ça, on peut même utiliser de l'ancienne machinerie et utiliser ces robots-là pour opérer ces machines-là. On voit également beaucoup de, excusez-moi l'anglicisme, de refactoring de machinerie. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une vieille machine et ils vont ajouter des capteurs supplémentaires avec de l'intelligence artificielle pour la rendre vraiment plus efficace, plus productive. Il y a des beaux études de cas qui ont sorti, entre autres, je pense à une entreprise qui devait, là c'est très simple, là, mais qui devait, dans le fond, classer des patates sur un convoyeur. Et juste en rajoutant des capteurs avec caméra et de l'intelligence artificielle, ils ont pu passer de 15% de rejet à 5%. Donc, juste wow. D'utiliser une machine déjà existante, d'ajouter des capteurs dessus, de la rendre plus intelligente, de la robotiser un petit peu plus. Et à ce moment-là, ben ça leur c'est directement dans le profit que ça tombe au bout de la ligne de pas avoir trop de rejet à ce moment-là sur ces machines-là. Donc oui, on le voit là dans beaucoup d'industries, mais particulièrement dans le manufacturier, tout ce qui est robotique, tout ce qui est intelligence artificielle, ça commence vraiment à s'implanter. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans ce secteur-là, entre autres, dites-vous que c'est présentement que ça se passe, honnêtement. On pense toujours que ça va être dans 5-10 ans, là, mais ça bouge à une vitesse très, très rapide. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on parle de la robotique, c'est qu'on a des bons joueurs ici au Québec, qu'on peut aller chercher l'information, qu'on peut aller regarder qu'est-ce qu'ils ont comme produit, qu'on peut les tester. On dépend plus d'un taux de change qui est favorable pour acheter de la machinerie à l'extérieur. On dépend plus d'un problème de fuseau horaire pour avoir du service ou d'un problème d'approvisionnement de pièces parce que ça vient de loin. On le voit, là. On a beaucoup de nos clients qui ont de la machinerie de l'Italie où il y a peu ou pas de documentation, qui sont pas capables d'avoir de service, qui ont de la difficulté à avoir des pièces. Là, en achetant local ici au Québec, bien, on pallie à beaucoup de risques et beaucoup de problématiques autour. Donc oui, on le voit dans le quotidien, là, ça commence à s'implanter. Puis je pense que c'est vraiment le temps à l'heure actuelle de commencer à regarder ce qui se passe. Il y a des belles subventions aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Donc la robotique va venir généralement avec l'intelligence artificielle. Il y a des belles subventions que le gouvernement a mis sur pied par différents organismes. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur pour réussir à passer un petit peu au devant de la compétition dans ces différentes sphères-là, robotique, intelligence artificielle et optimisation de la machinerie. Là.
Puis il y a des gens aujourd'hui qui connaissent les présidents des entreprises mécadémiques, Kinova et Robotique. Venez discuter un petit peu avec nous. On les amènera sur le podcast Hypercroissance puis on essaiera de faire découvrir leur organisation à nos auditeurs parce qu'effectivement, si on regarde le poids démographique que le Québec a comparativement à tout le reste de l'Europe ou à ces différents pays-là, on est beaucoup plus petit. On arrive, et on mettra encore une fois, je le répète, les liens des différents articles dans les notes de l'épisode, on arrive à être excessivement compétitif. Et là, on parle beaucoup d'importation, mais est-ce qu'il y a des informations un petit peu sur l'exportation? Est-ce qu'on est rendu à exporter cette technologie-là un petit peu partout dans le monde? As-tu des informations à ce sujet-là, Jonathan?
Mais si on regarde au niveau de Kinova, laisser transparaître un peu d'informations par Internet, la majorité de leurs ventes se font aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, encore un petit peu là, l'expression n'est pas toujours maître chez nous. Là, on a très beau produit et on est maître ailleurs avant de devenir maître ici au Québec. Par contre, en lançant la nouvelle génération 3 là, du bras Link 6, que ça s'appelle, il devrait avoir un coût de vente aux alentours de 50 000 $ et c'est là qu'ils pensent qu'ils vont être capables vraiment d'aller attaquer le marché canadien et des États-Unis dans la PME. Donc, je pense que vraiment, on est sur vraiment sur le pivot à l'heure actuelle où ce qu'on va penser que c'est seulement les grandes entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de budget qui utilisent ça à maintenant les PME qui se disent souvent, ben moi, c'est du sur-mesure que je fais pour chacune de mes commandes, puis c'est des petites commandes, mais là, ça commence à être intéressant. Et il y a des statistiques qui ont sorti à travers tout ça, que généralement, le retour sur investissement se passe en dedans de 12 à 24 mois dans l'implantation de ce type de robot-là, dans cette strate de prix-là. Donc, je pense qu'on est rendu vraiment là à un point où ça vaut la peine de commencer à s'éduquer, de regarder ce qui se passe, puis de contacter certains de ces fabricants-là pour voir comment on peut l'implanter dans nos propres entreprises.
Quelques questions pour toi, parce que tu as l'air d'œuvrer un petit peu dans le volet manufacturier, comme tu disais. Donc, j'imagine que tu comprends un petit peu plus la réalité. Je suis un propriétaire d'entreprise, j'écoute le podcast aujourd'hui. comment ces entreprises-là peuvent-elles m'aider? Quelles catégories spécifiques d'organisations peuvent aller bénéficier des différents services des trois organisations qu'on a mentionnées plus tôt?
Il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un regroupement québécois qui est le REAI, qui est pour tout ce qui est la robotisation puis l'automatisation industrielle. Donc, c'est une belle initiative qui est en cours à l'heure actuelle, qui regroupe beaucoup, beaucoup d'entreprises, autant les fournisseurs que les gens qui veulent justement automatiser puis robotiser leur organisation. Donc, je pense que c'est probablement une des meilleures portes d'entrée à laquelle aller cogner puis aller commencer à s'éduquer puis d'ouvrir des contacts dans ce réseau-là. Directement. On les entend très souvent actifs à l'heure actuelle dans le manufacturier au Québec. On voit souvent leur nom chez des clients sortir. On les voit également apparaître souvent dans des articles de médias. Donc, je pense que c'est probablement la meilleure porte d'entrée pour ceux qui nous écoutent, là, qui veulent aller un petit peu plus loin. Et le REI, c'est le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Donc, c'est beaucoup le manufacturier 4.0 là, ici au Québec. C'est un des chefs de file, un des groupements de chefs de file là, ici au Québec sur lequel je pense qu'on peut s'appuyer puis créer un effet de levier pour notre auditoire.
Oui, puis je suis sur leur site Internet en ce moment puis littéralement, ils ont une possibilité très facilement de vous mettre en contact avec le regroupement de toutes les entreprises qui font partie un petit peu de leur réseau. Donc, ils ont l'air d'avoir un très gros inventaire d'organisations qui font partie de ce réseau-là. Donc, allez jeter un petit coup d'œil parce que bon, on le sait, on est dans un environnement au Québec présentement où est-ce que l'offre des entreprises, la possibilité d'aller chercher des contrats est beaucoup plus haute que le nombre de talents qu'on a à notre disposition. Également, on en a parlé la semaine dernière sur le podcast, des enjeux qui sont mis à notre disposition concernant les embauches à l'extérieur du pays. Donc, ultimement, faut se tourner vers des solutions alternatives. Et je pense que tout ce qui est robotique, automatisation, faut que ça soit dans nos plans en 2022. Là, on est plus en 2015-2016, comme quoi qu'ultimement, ça va peut-être devenir quelque chose. C'est quelque chose dans le moment. Il y a des joueurs au Québec, qu'il y a des organisations autant qui soient québécoises, canadiennes qu'internationales. C'est dans le moment. Donc, définitivement, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil REAI aux différents articles qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. As-tu autre chose peut-être à rajouter par rapport à ce sujet qui, en toute transparence et en toute honnêteté avec l'audience aujourd'hui, n'est pas tellement un sujet que je connais grandement. Je n'œuvre pas dans le milieu industriel ou manufacturier, mais je trouve donc fascinant.
Je rajouterais deux choses. Le premier élément, il y a l'entreprise Statista, qui sont spécialisées dans des statistiques, que vous pourrez aller voir la statistique sur Internet, qui regarde le coût moyen d'un robot industriel de 2005 à 2017 avec une projection en 2025. Les chiffres que je vous donne sont en dollars US. En 2005, un robot industriel coûtait en moyenne aux alentours de 70 000 dollars US. En 2017, en moyenne, 27 000 US et ils projettent en 2025 environ 11 000 $ US. Donc, on a vraiment une courbe qui suit une courbe, exemple, le prix des batteries qu'on voit aujourd'hui dans les véhicules automobiles, là. Donc, on arrive vraiment à réduire rapidement d'année en année le coût de ces robots-là. Puis on le voit présentement, par exemple, avec Kinova qui est en train d'attaquer le marché de la PME avec des robots là, en 50 000 $ de 50 000 $ et moins. Puis on va probablement arriver dans une situation que l'année prochaine ou dans deux ans, ça va être 20, 25, 30 000, puis après ça, 10, 15 000. Mais déjà là, le retour sur investissement, s'il se fait en 12 à 24 mois, mais c'est déjà intéressant au prix actuel de commencer à regarder ça puis de s'approprier un peu cette technologie-là pour trouver des utilisations réelles dans nos organisations. Donc, je dirais la première chose, le coût descend, mais le retour sur investissement est déjà là. Ça peut avoir l'air d'être cher, un robot à 50 000, mais combien ça coûte d'engager quelqu'un? Tandis que le robot, lui, va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 souvent, puis il sera pas malade, puis surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Puis ça permet de placer l'humain à ce moment-là dans des tâches qui sont un peu plus plaisantes, qui sont un peu plus à valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à ça devant nous, mais c'est aujourd'hui que ça se passe directement.
L'entrepreneur en dedans de moi, en ce moment, se pose la question, Jonathan, toi qui œuvres dans le marché manufacturier, tu vois des entreprises qui ont de l'impact au Québec au niveau de la robotique, à quel point établir ou développer, créer des partenariats stratégiques avec ces entreprises-là, c'est dans tes plans futurs parce que vous avez une clientèle qui est similaire et les deux pourraient bénéficier des services de l'un et de l'autre, là.
Effectivement, on voit des joueurs similaires à nous dans l'industrie à l'heure actuelle qui commencent à développer des pratiques de développement de code, de développement logiciel qui s'interfacent avec les robots. Je pense que ça va devenir vraiment quelque chose de plus en plus courant. Puis d'après moi, dans 5 à 10 ans, autant des entreprises comme la nôtre en développement logiciel ou autant que des équipes à l'interne chez les clients, il va y avoir des gens qui vont être vraiment spécialisés dans la programmation pour les robots. Bien que les Kinova de ce monde disent qu'on n'a pas besoin d'un bac en sciences nucléaires là, pour les opérer, ces robots-là, c'est un des soucis qu'ils ont d'essayer de les rendre les plus simples. Je pense qu'il va quand même avoir un peu de programmation avancée à faire autour pour les optimiser. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a à l'œil présentement. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'heure actuelle, mais on voit qu'il y a certains joueurs qui sont en train de faire des tests dans le marché avec différents types de robots. Mais je pense que ça va devenir une tendance lourde probablement devant nous. Tout ça dans le but de rendre les entreprises plus efficaces, plus rentables par la technologie, là.
De parc informatique à parc robotique, ça va être ça un petit peu ultimement que vous allez devoir vous poser des questions sur comment aider ses clients à ce niveau-là. Donc, c'est assez fascinant tout ça.
Exactement. Puis, ce que je pourrais dire à l'auditoire, s'il y en a des gens qui se demandent par où débuter, bien, regardez un petit peu dans vos organisations. Il y a deux volets là que vous pouvez regarder. La première des choses, c'est quel poste vous avez de la difficulté à pourvoir à l'heure actuelle. Vous pouvez débuter soit avec cette branche-là pour essayer de creuser, voir est-ce qu'il y a des tâches là-dedans qui peuvent être robotisées à ce moment-là. Mm-hmm. Ou sinon, l'autre angle directement, c'est regarder lesquelles tâches qui a beaucoup de volume manuel dans votre organisation. Donc, déplacer des objets, activer des systèmes de manière physique. Donc, ça s'applique beaucoup généralement dans le manufacturier. Donc, il y a deux volets. Soit de regarder vraiment du côté de l'humain où il y a une pénurie de main-d'œuvre ou de l'autre côté, les tâches qui sont à gros volume physique. Donc, il y a quelque chose, je pense, à explorer là-dedans puis à commencer à noter pour aller voir un petit peu plus loin là, comment qu'on peut appliquer la robotisation dans son organisation.
Merveilleux. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Autre chose, Jonathan, qui vient en tête que tu aimerais partager avec l'audience aujourd'hui?
Je dirais, de mon côté, c'est tout par rapport à la robotisation, mais si vous avez la chance d'aller voir la vidéo qu'on va mettre dans les notes sur Dyson qui ouvre les portes de leur centre de recherche, ils ont acheté un hangar d'avions géant pour installer leur gens là-bas, juste pour vous donner une idée à quel point ils veulent pousser là-dessus là, à la grandeur de l'endroit. Là. C'est très impressionnant de voir où est-ce que les robots sont rendus aujourd'hui, puis on a de la difficulté à réaliser que c'est aujourd'hui, là.
Bien sûr.
Donc,
c'est pas
ça
dans
vaut
10
la
ans.
Peine à le regarder, effectivement.
Mmh. Fantastique. Jonathan, merci encore pour ces informations. Un podcast plus court, mais concret aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent concernant la robotique, concernant l'automatisation. Allez jeter un petit coup d'œil aux différents liens qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. Vous allez avoir un petit peu plus de contexte sur tout ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui. Et jeter un coup d'œil, il y a des belles entreprises québécoises qui peuvent présentement faire le travail qui auparavant était uniquement fait par des gros joueurs européens. Donc, c'est toujours une fierté qu'on est capable d'avoir au Québec, de voir des entreprises voisines avoir autant de succès. Jonathan, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.